Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 8 mars 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran a averti qu'Israël ne devrait pas être autorisé à entrer dans le Caucase. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'OCS peut jouer un rôle efficace face à l'unilatéralisme, déclaration du président Raisi. Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontre son homologue turc à Ankara. Et puis, empoisonnement des écoliers, le ministère de l'Intérieur d'Iran annonce l'arrestation d'un certain nombre de personnes impliquées. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien affirme que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dispose de capacités extraordinaires qui lui permettent de jouer un rôle efficace dans la lutte contre l'unilatéralisme. Le président iranien Ebrahim Raisi a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OCS. Il a déclaré que l'organisation peut également promouvoir la coopération régionale et internationale compte tenu de son immense main-d'œuvre et de son étendue géographique. Le président Raisi a par ailleurs déclaré que les membres de l'organisation pouvaient renforcer la coopération commerciale grâce à l'échange d'expertise. Le secrétaire général de l'OCS a pour sa part s'est félicité de l'adhésion de l'Iran à l'organisation tout en soulignant le rôle important de Téhéran dans la paix, la stabilité et le développement de la région. L'OCS a été fondée par la Chine, la Russie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan en 2001 et constitue actuellement le plus grand marché régional du monde avec 8 membres officiels et 4 observateurs. L'organisation représente 40% de la population mondiale et 28% du produit intérieur brut mondial. Le ministre iranien des Affaires étrangères, qui est en visite en Turquie, a déclaré que Téhéran mettait l'accent sur la coopération plutôt que sur la concurrence entre les pays de la région. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a fait ses remarques lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu à Ankara. Le haut diplomate iranien a également présenté ses condoléances au peuple et au gouvernement turc suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé le pays le mois dernier. Amir Abdollahian a déclaré que lui et Cavusoglu avaient discuté des développements internationaux et régionaux ainsi que des relations bilatérales. Amir Abdollahian a déclaré que le commerce, les douanes et les transports, ainsi que la lutte contre le terrorisme, étaient d'autres questions de la discussion bilatérale. Il a également mis en garde contre la présence israélienne dans la région du Caucase, la qualifiant de menace sérieuse pour la paix et la stabilité régionale. Cavusoglu a pour sa part remercié la réponse rapide de l'Iran en envoyant de l'aide à la Turquie après le tremblement de terre. Il a dit qu'il se rendrait en Iran dans un proche avenir. Résoudre les problèmes de sauvegarde de l'Iran est facile. Il faut conclure les négociations sur la levée des sanctions. Déclaration du principal négociateur russe. L'ambassadeur de Russie et représentant permanent auprès des organisations internationales basées à Vienne a estimé que la résolution de la sauvegarde des revendications politiques sur le programme nucléaire iranien dépendait de la conclusion des négociations de levée des sanctions qui ont été retardées en raison de la procrastination des parties occidentales pour prendre des décisions politiques. Mikhaïl Ulianov, qui est le chef de la délégation russe dans les négociations pour lever les sanctions, s'est adressé aux parties occidentales qui ont exprimé leur inquiétude concernant les mesures compensatoires de l'Iran dans le plan global d'action conjointe sur le nucléaire iranien de 2015 lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Enfin, l'empoisonnement des écolières, le ministère de l'Intérieur de l'Iran annonce l'arrestation d'un certain nombre de personnes impliquées. Le ministère iranien de l'Intérieur a annoncé mardi dans un communiqué à propos des cas survenus dans les écoles qu'un certain nombre de personnes impliquées dans les incidents d'empoisonnement d'élèves ont été identifiées et arrêtées dans 6 provinces du pays. Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère iranien de l'Intérieur a déclaré qu'en coopération avec différents appareils de sécurité, certains agents liés à l'étranger avaient été arrêtés pour avoir empoisonné des écoles dans plusieurs villes du pays. Le communiqué indique qu'en coopération avec le CGRI, Corps des gardiens de la révolution islamique, et la police du pays, ainsi qu'avec les appareils de renseignement des provinces du Khuzestan, de l'Azerbaïdjan occidental, du Fars, de Kermanshah, Khorasan et Alborz, un certain nombre d'individus qui fournissaient et lançaient des agents incendiaires parmi les élèves ont été identifiés et arrêtés. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Iran a averti qu'Israël ne devrait pas être autorisé à entrer dans le Caucase. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a déclaré « La présence d'Israël dans le Caucase est l'un des problèmes les plus importants et l'Iran a averti toutes les parties d'agir avec sagesse concernant Israël et de ne pas ouvrir la voie pour la présence d'Israël dans le Caucase. » Hossein Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a déclaré mercredi, après avoir rencontré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, à Ankara, lors d'une conférence de presse conjointe, « Nous sommes ici pour montrer une fois de plus notre solidarité avec la nation turque et déclarer le gouvernement de la Turquie comme un ami et un frère. » Se référant à la Journée internationale de la femme et commémorant cette journée en Turquie avec félicitations, le très haut diplomate iranien a ajouté « En République islamique d'Iran, nous avons correctement nommé l'anniversaire de la bienheureuse naissance de la très vénérée Fatima Zahra, bénie soit-elle, la dame de la lumière et de la miséricorde, comme la journée de la femme. » Les femmes iraniennes ont célébré cette occasion il y a quelques semaines. Les femmes sont la partie la plus puissante de la société en République islamique d'Iran, a-t-il souligné. Amir Abdollahian a poursuivi « Après le tremblement de terre en Turquie, le guide suprême et le président Raisi ont donné des ordres stricts pour déclarer la solidarité iranienne et aider le peuple musulman de Turquie. » Au moment où les agences de secours dans mon pays étaient occupées à fournir une assistance aux personnes touchées dans la ville de Hoi par le tremblement de terre chez nous, ils n'ont pas hésité à apporter leur aide. Nous considérons la douleur des Turcs comme la nôtre. Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a renchéri. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de discuter des questions bilatérales. Nous avons eu une conversation importante sur l'importance des relations d'affaires. L'augmentation du volume des échanges s'est réalisée plus que jamais, ce qui est dû à la volonté des dirigeants des deux pays et du nouveau gouvernement iranien. Évoquant le projet des corridors, le très haut diplomate iranien a affirmé qu'au Téhéran met l'accent sur le partenariat régional plutôt que sur la concurrence régionale. Nous sommes d'accord sur l'importance de l'accès continu de l'Iran à l'eau de la rivière Aras. Le groupe de travail conjoint poursuit ses travaux à cet égard afin que les populations des régions occidentales de l'Iran puissent en bénéficier. Nous pensons qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais terrorisme et que le terrorisme est sinistre sous toutes ses formes. Insistant sur le fait que la sécurité de la Turquie est comme la sécurité de l'Iran, il a déclaré « L'Afghanistan a besoin de la formation d'un gouvernement global avec la présence de tous les groupes influents. L'Iran, tout en coopérant avec leurs gains au pouvoir, ne reconnaît pas cette situation. Nous espérons voir un gouvernement inclusif dès que possible. » Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, se référant à ses entretiens avec le ministre turc des Affaires étrangères au sujet de la région du Caucase, a déclaré « La présence d'Israël dans le Caucase est l'une des questions les plus importantes. Et l'Iran avertit toutes les parties d'être intelligentes à propos d'Israël et de ne pas ouvrir les portes d'Israël dans le Caucase. » L'accent a également été mis sur l'augmentation du volume des échanges irano-turcs. Amir Abdollahian a déclaré à propos des sujets de ses entretiens d'aujourd'hui avec le ministre turc des Affaires étrangères, Dixit. Lors de la rencontre, nous avons discuté des questions bilatérales et souligné l'importance du développement des relations économiques et commerciales. L'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays est l'un des enjeux qui s'est réalisé plus que jamais au cours de la dernière année et demie, ce qui est dû à la volonté des dirigeants des deux pays, en particulier du nouveau gouvernement iranien. Il a déclaré que lors de la rencontre d'aujourd'hui, un moyen de supprimer les obstacles a été discuté. Il a énuméré les affaires douanières et de transit entre les deux pays comme autre axe des pourparlers et a ajouté « Nous mettons l'accent sur le partenariat régional plutôt que sur la concurrence régionale dans les corridors de transport régionaux, y compris les corridors entre l'Iran et la Turquie. » À cela s'ajoute le terrorisme actif dans la région du Kurdistan d'Irak et en Afghanistan, qui est la préoccupation commune entre les deux parties. Le chef de l'appareil diplomatique de notre pays a considéré la lutte contre le terrorisme comme l'un des autres axes de sa conversation avec son homologue turc aujourd'hui et a indiqué « Le terrorisme sommé depuis la région du Kurdistan irakien et mené par les daéchistes en Afghanistan sont nos préoccupations communes. » Amir Abdollahian a poursuivi La coopération en matière de sécurité dans la lutte contre le terrorisme entre les deux pays est à un niveau élevé et nous considérons légitime le droit de l'Iran et de la Turquie à se défendre contre tout acte terroriste de n'importe quelle direction et par n'importe quel groupe au nom du droit international. Cavusoglu se rendra bientôt à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a déclaré à cette occasion que le commerce frontalier et la coopération provinciale font partie d'autres axes du dialogue d'aujourd'hui. En ce qui concerne le commerce frontalier, les choses ne progressent pas comme prévu par les autorités des deux pays. Nous sommes pour des gestes d'ouverture et de bonne volonté dans ce domaine. Il a également fait part d'une visite imminente de son homologue turc à Téhéran. On a également discuté de la visite du président Raisi en Turquie, a-t-il fait encore savoir.
Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Presse TV, ici, dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du débat aujourd'hui est la venue de Grossi, donc le représentant de l'AEA avec une équipe avec lui, afin de reparler de la situation nucléaire de l'Iran. Ici en visite à Téhéran, c'est le sujet du débat d'aujourd'hui. Je vous propose donc notre reportage préparé à cet effet et ensuite la venue de nos deux invités. Tout de suite donc, notre reportage.
La visite du directeur général de l'AIOA, Raphaël Grossi, à Téhéran, vise à ramener les relations au plus haut niveau, a déclaré l'agence France-Presse, citant une source diplomatique anonyme. Raphaël Grossi a rencontré à Téhéran plusieurs hautes autorités iraniennes, dont Mohammad Eslami, chef de l'Organisation de l'énergie atomique de la République islamique d'Iran, vendredi soir. À l'issue de la rencontre, les deux hommes ont participé à une conférence de presse conjointe. Au milieu des pourparlers décisifs, pour reprendre les mots de la source, Grossi a été également reçu par le président Raïsi. L'Iran s'attend à une approche professionnelle de l'AIOA, a déclaré le chef du gouvernement iranien à l'adresse de son interlocuteur. Soulignant les négociations de Raphaël Grossi avec des responsables iraniens à Téhéran, le président Raïsi a exprimé l'espoir que l'AIOA agira sur la base d'un comportement équitable et du principe de neutralité pour annoncer les réalités concernant les activités nucléaires pacifiques de l'Iran et le respect des réglementations par le pays. Il a déclaré que les visites des responsables de l'AIOA à Téhéran témoignent de la ferme détermination de la République islamique d'Iran d'avoir une coopération constructive avec l'agence. La source anonyme a également déclaré que l'accès au site nucléaire de Fordo et une inspection plus approfondie figuraient parmi d'autres objectifs de la visite de Raphaël Grossi. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIUA, a affirmé que les derniers accords conclus entre Téhéran et l'agence viennoise lors de la visite du directeur général de l'AIOA sont conformes à la loi stratégique votée par le Parlement iranien. La loi surnommée le plan d'action stratégique pour contrer les sanctions a été adoptée par les législateurs iraniens pour contrer les sanctions imposées à l'Iran par les États-Unis et leurs alliés occidentaux, mais aussi pour promouvoir le programme nucléaire pacifique du pays conformément aux intérêts légitimes nationaux. Dans une déclaration émise samedi 4 mars, l'Iran et l'AIOA ont affirmé avoir convenu de prendre des mesures pour renforcer la coopération bilatérale et accélérer la résolution des questions de garantie en suspens entre les deux parties. La déclaration a été publiée à l'issue de cette visite de deux jours. Un an s'est écoulé depuis la dernière visite de Raphaël Grossi à Téhéran. Il s'était rendu pour la dernière fois à Téhéran en mars 2022. Depuis novembre, la nouvelle d'une visite imminente du directeur général de l'AIOA avait été annoncée à de nombreuses reprises par de hautes autorités de la République islamique d'Iran, dont Mohammad Eslami, chef de l'OIOA, mais à chaque fois, cette visite a été annulée. Voilà la visite qui a été effectuée. Téhéran et l'AIOA ont annoncé dans leur déclaration conjointe qu'ils s'entendent sur la résolution de leur désaccord. La question qui se pose, c'est que pourquoi ce déplacement se veut prometteur pourrait-il ouvrir la voie à la relance de l'accord nucléaire de 2015 en agonie?
Donc nous revoilà sur les plateaux. Nous allons faire venir d'abord nos invités. Alors notre premier invité, Monsieur Amrouni, analyste politique, un de nos experts. Bonjour Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir avec nous sur le plateau.
Bonjour à vous et à tous nos téléspectateurs.
Merci. Alors notre deuxième invité, Monsieur Dupré, économiste, il va nous permettre d'avoir une vision économique un petit peu de la situation avec l'Iran. Bonjour Monsieur Dupré, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Bonjour madame, c'est toujours un plaisir.
Alors, la situation pourrait sembler positive cette semaine, Monsieur Amrouni, au vu de la venue de Monsieur Grossi ici à Téhéran, dans la capitale iranienne, sur la situation nucléaire iranienne, qui se veut uniquement civile, quand l'a déclaré à plusieurs reprises le gouvernement iranien, incluant dans la constitution iranienne l'interdiction de l'utiliser dans un point de vue militaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans un premier temps sur cette venue de Monsieur Grossi, Monsieur Amrouni?
Vous savez que la visite de M. Grossi, comme vous l'avez bien précisé dans votre reportage, elle était prévue fin 2022. Et donc l'Occident, à sa tête, les États-Unis, ils ont tout fait pour déstabiliser le régime iranien et le peuple iranien, mais ils n'ont pas réussi. Donc cette visite, d'abord, c'est une réussite iranienne, c'est une victoire diplomatique iranienne. Deuxièmement, le fait que M. Grossi vient à Téhéran, ça veut dire qu'il y a vraiment une négociation importante sur le sujet nucléaire qui représente le gros dossier de la pression occidentale sur l'Iran. Donc les Iraniens n'ont jamais caché qu'ils étaient tout le temps en bonne relation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et l'Iran, elle était tout le temps transparente. Sur ce sujet-là et sur ses liens avec cette organisation que normalement elle devait être une organisation technique. Malheureusement, cette agence, on a vu dans certains rapports, elle était soumise sous la pression des lobbies sionistes, surtout américaines et européennes, et on a vu que l'agence, parfois, elle ne joue pas son rôle technique pour se rassurer que le programme nucléaire iranien, c'est un programme civil. Donc, l'Iran a montré sa disposition à discuter, à négocier, à mettre en place un système de transparence et remettre la confiance avec l'agence sur son dossier technique nucléaire. Donc, la visite de M. Grossi, c'est une victoire diplomatique pour l'Iran, mais aussi, c'est une ouverture importante par l'agence pour revenir vers la table de négociation pour les rapports et le plan de négociation sur le nucléaire iranien avec les Américains et avec les Européens surtout.
Merci, M. Amrouni. M. Dupré, comme l'a évoqué M. Amrouni, l'année 2022 a été une année extrêmement tendue avec le sort de la UEA. C'est quand même une situation qui était assez nouvelle parce que l'Iran a toujours une relation diplomatique stable avec la UEA, faisant venir et acceptant toujours plus, mettant des caméras, acceptant que des experts viennent visiter leur site. Il faut avouer que peu de pays font ce que l'Iran a fait en faisant venir, en acceptant des experts venir voir leurs usines nucléaires, voir leurs centres nucléaires. Il y sont peu de pays à faire ce genre de vérification, même parmi les pays occidentaux. Monsieur Dupré, est-ce que, selon votre vision économiste, vous y voyez aussi d'autres raisons pour lesquelles Monsieur Grossi soit venu? On a envisagé dans le reportage, et on a laissé entendre que c'est dans le but peut-être de faire revivre donc l'accord de 2015.
C'est qu'en fait, aujourd'hui, si on décode bien l'année 2022, je pense qu'elle a été, enfin, si vous voulez, il y avait un programme politique de regime change très clair en ce qui concerne la République islamique d'Iran de la part des Occidentaux et des Turcs du Pentagone. Il y a encore quelques mois, quelques semaines d'ailleurs de cela, M. John Bolton, qui est un petit peu une figure de proue des néoconservateurs américains, déclarait que la République islamique d'Iran, en fait, il ne fallait pas négocier avec elle, puisqu'il y aurait un nouveau gouvernement, un nouveau régime qui serait porté par une sorte de révolution qui serait en préparation. Donc on comprend clairement qu'il y avait là quand même un agenda très net de la part des États-Unis sur cette question. Et partant, les Occidentaux, il faut quand même le dire, depuis 2018 et l'année... donc l'année à laquelle, durant laquelle Donald Trump a claqué la porte des accords, les Européens ne se singularisent pas par une forme de courage tout à fait exceptionnelle par rapport aux États-Unis. On est très alignés par rapport à Washington. Donc à ce moment-là, c'est très clair. Aujourd'hui, on voit bien, comme le soulignait mon interlocuteur auparavant, c'est que, oui, effectivement, cette tentative de regime change a échoué. Et donc, aujourd'hui, la question qui se pose, et elle est toujours la même dans le chef des Occidentaux, c'est la suivante. On voit clairement quand même que si l'Europe a tenu bon et l'Europe occidentale représente un poumon économique hein, au sein de ce qu'on appelle la trilatérale, c'est-à-dire les États-Unis, enfin et l'ALENA, donc l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, et puis vous avez le Japon. Donc si vous avez des soucis d'accumulation, de croissance, d'investissement en Europe occidentale, au sein de l'Union européenne aujourd'hui, vous allez avoir... c'est pas un moteur de l'économie mondiale qui s'éteint. Donc c'est un souci pour les États-Unis. Donc si on n'arrive pas à faire de changement de régime en Iran, la question qui va se poser pour nous, c'est celle de notre approvisionnement en gaz et en matières premières énergétiques. Elle se posera l'année prochaine. Aujourd'hui, les marchés sont très calmes parce que l'hiver a été d'une douceur exceptionnelle. Tout à fait, c'est incroyable. Je veux dire, au mois de décembre, on pouvait encore sortir en chemise sur la rue à Bruxelles. C'est assez exceptionnel. L'année prochaine, ce ne sera sans doute pas le cas. L'anomalie, une anomalie, par définition, n'est pas appelée à se répéter indéfiniment. Donc la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est l'approvisionnement en gaz, en GNL, sachant que le Qatar a quand même des contrats de long terme très importants, pour des volumes très importants avec la Chine. La Chine qui déconfine et redémarre économiquement. Et donc c'est à ce moment que les Occidentaux, eh bien, quelque part, avec cette visite de M. Grossinet, disent quelque part que le canal est à nouveau ouvert, le canal de discussion est à nouveau ouvert avec la République islamique d'Iran. Ce canal est d'autant plus ouvert aujourd'hui que, finalement, nous n'avons pas le choix, puisque là, clairement, l'arrivée de matériel militaire à destination de l'Ukraine, des tensions nouvelles qui... si vous voulez, une situation en Ukraine qui... loin de se décanter ou d'atterrir, est plutôt en train de connaître une escalade à nouveau, et le printemps sera terrible, et l'été sera terrible, même le début de l'automne, de ce point de vue, on sent bien quelque part que nous n'avons pas spécialement aujourd'hui d'autre choix que d'essayer de trouver de nouveaux partenaires pour nos fournitures en matière première énergétique. Il faut quand même bien se rendre compte que si nous avons un hiver très dur l'année prochaine, avec des prix qui redeviendraient ceux qui étaient au mégawattheure sur la bourse virtuelle des Pays-Bas, la bourse d'échange du marché de gros du gaz, si on retrouve un niveau de mégawattheure à 320 euros, il faut s'attendre à une récession qui serait de l'ordre de la dépression économique dans l'année qui suit au sein de l'Union européenne.
Je profite, je saute sur le mot dépression pour aussi indiquer que l'Europe a énormément perdu en matière de marché avec l'Iran, étant donné que plusieurs compagnies étaient censées aider certains autres ici en Iran à se reconstruire ou à se moderniser. Hein. Je me nomme par exemple Boeing, je nomme Total, il y a énormément de noms qui ont dû annuler et casser leurs contrats. L'Iran n'a pas attendu, c'est à cause certainement du conflit avec l'Ukraine. Finalement, l'Iran n'a pas attendu. Certains contrats ont déjà été signés avec la Chine et la Russie. C'est un manque à gagner énorme pour l'Europe. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que même si les messages se veulent positifs, l'Iran a toujours laissé entendre que la diplomatie restait ouverte, est-ce que l'Europe a quelque chose à gagner à l'heure encore actuelle avec l'Iran?
Oui, clairement. Si nous n'avons pas de marché au niveau des exportations, potentiel prix d'importation de ce produit sur votre balance totale, vous avez intérêt à avoir des relations économiques avec ce pays. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et si aujourd'hui on arrive à aller chercher du gaz en Iran et à sécuriser des contrats gaziers de long terme au niveau européen, pour nous, quand bien même nous n'aurions plus la totalité, j'ai bien dit la totalité des contrats auxquels on pourrait prétendre, il y en aura quand même quelques autres, pour nous, si nous avons aujourd'hui un gaz qui est stabilisé, un mégawattheure de gaz qui serait stabilisé aux alentours de 40 euros le mégawattheure, nous y avons déjà gagné.
Merci. Monsieur Amrouni.
C'est notre dépendance aux hydrocarbures qui, pour l'instant, détermine en toute première instance nos possibilités de croissance économique.
Merci.
C'est notre marché intérieur qui est touché par nos exportations.
Merci, Monsieur Dupré. Monsieur Amrouni, il y a eu donc le sommet à Aqaba. On est obligé de parler, encore on parle de l'Iran, on est forcément obligé de parler de l'entité sioniste, notamment que l'une des raisons des tensions avec la UEA a été due à de fausses informations données par l'entité sioniste sur la situation nucléaire en Iran. Donc on est obligé de parler du sommet d'Aqaba et également de la rencontre la semaine prochaine entre l'entité sioniste et les Américains, notamment sur la situation palestinienne, mais pas que, puisque le sujet de l'Iran va également être sur la table. Est-ce que le fait que Grossi arrive cette semaine et que très peu de temps après, il y a cette réunion avec les Américains, on laisse entendre que les Américains seraient assez fâchés par la politique israélienne actuelle, qu'elle n'est pas d'accord avec la vision actuelle de cette entité sur la question palestinienne, mais également sur la question iranienne. Est-ce que vous attendez donc, dans les semaines à venir, également un mouvement qui va permettre, comme l'a dit et l'a demandé les Iraniens, peut-être un pas encore vers la diplomatie de 2015.
Vous savez, c'est les États-Unis qui manœuvrent, ce n'est pas Israël. Donc, c'est les Américains par rapport à l'Iran, il faut rappeler qu'il y a quelques jours, le Pentagone il a voté un plan d'urgence militaire contre l'Iran. Donc, les États-Unis préparent la guerre contre l'Iran, ils ne préparent pas la paix. Et les États-Unis, elle a la stratégie du bâton et de la carotte. Donc, elle envoie la carotte de M. Grossi et elle prépare le bâton qui s'appelle Israël. Donc, on est dans une situation très complexe. Et la guerre contre l'Iran, elle est déclarée depuis 40 ans, mais elle s'amplifie depuis à peu près une dizaine d'années. Là, on est au summum. On est dans la pression la plus hautement dirigé contre un pays dans le monde. Donc, les sanctions économiques, la déstabilisation à l'intérieur même de l'Iran, les assassinats, la guerre autour de la frontière, des frontières iraniennes. Hier, c'était avec l'Irak. Aujourd'hui, ils essaient avec les Azerbaïdjans. Demain, je ne sais pas où, peut-être avec les Kurdes. Donc, la guerre, on est en pleine guerre avec les États-Unis. On n'est pas entre guerre et paix. Donc, la relation entre Israël et les États-Unis, c'est la relation la plus importante dans la région. Et l'ennemi déclaré des deux, c'est l'Iran. Donc, on est dans une situation d'avant-guerre directe. Est-ce que les États-Unis décideront d'aller affronter les Iraniens directement avec des bombardements ciblés ou les Américains trouveront un appui diplomatique quelque part pour revenir à la table de la négociation. Les Iraniens, par la visite de M. Grossi, ils ont dit clairement, nous sommes prêts à être transparents. Nous sommes prêts à revenir dans nos accords. Par contre, si les Américains ils ne lèvent pas leurs sanctions, nous continuerons notre programme nucléaire jusqu'au bout. Et donc, il y avait la réussite donc, de cette visite de M. Grossi. Mais en même temps, les Iraniens, ils ont montré par la voix du ministre de la Défense le potentiel militaire qu'ils ont, le potentiel technologique dans l'industrie militaire, que ce soit dans les missiles balistiques ou les drones ou d'autres choses. Donc, voyez-vous, on est vraiment dans de bras de fer entre la République islamique d'Iran et les États-Unis via l'entité sioniste.
Mais est-ce que les Américains peuvent se le permettre? Parce qu'il faut remettre ce calme sur la table. Les Américains ne sont pas seulement en guerre avec l'Iran. Il y a la situation à Taïwan qui commence à empirer ces dernières semaines. Les joutes verbales entre diplomates s'intensifient. Les Chinois sont de moins en moins diplomatiques dans leurs propos. Il y a également la situation nord-coréenne où les exercices entre les pays voisins de la Corée du Nord veulent se faire et la Corée du Nord a bien prévenu qu'il ne laisserait pas faire. Et il y a également la situation ukrainienne. Et on n'oublie pas également la situation économique même des États-Unis, où on entend parler de chemins ferroviaires trop usagés, où on entend, notamment l'affaire dans l'Ohio, où le trafic ferroviaire est une catastrophe et pratiquement assez régulièrement des voies ferroviaires des wagons sortent des voies ferroviaires. Je veux dire, la situation n'est pas brillante pour les Américains et qu'ils peuvent se permettre d'être en guerre avec un autre pays qui est l'Iran, sachant qu'ils ont déjà deux ou trois gros pôles à s'occuper qui sont juste à côté de ces frontières.
Vous savez, l'ancien président, M. Trump, il y a quelques jours, il a annoncé, il a dit, moi, je peux arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures. Et il a raison, parce que M. Trump, Et il peut l'arrêter lorsque les États-Unis décident d'arrêter d'aider militairement les Ukrainiens et de faire la pression militaire contre la Russie. Donc les États-Unis, ils créent les guerres. C'est-à-dire que l'économie américaine marche avec les guerres, ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la paix dans le monde, les États-Unis cessent d'être une grande puissance. Donc la superpuissance américaine, elle vit grâce aux crises et grâce aux guerres déclarées. Et la preuve, son budget militaire, il dépasse les 850 milliards de dollars. La Chine vient d'annoncer l'augmentation de son budget militaire à 250 milliards de dollars. On voit le Japon qui augmente son budget militaire. Donc on est dans une situation d'affrontement militaire global.
Merci, donc, monsieur Amboni.
Les États-Unis, avec ses alliés, elle a les moyens d'affronter en trois lieux, c'est-à-dire en Asie, en Europe et contre donc ses ennemis directs, c'est-à-dire la Chine, la Russie et l'Iran.
Merci, monsieur Amroni. Monsieur Dupré, donc on venait de parler de la situation donc, des États-Unis par rapport à l'Iran, puisque c'est lui, le méchant policier qui fait les coups de pression pour que la diplomatie n'aboutisse pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que les Américains peuvent se permettre d'être rentrés en conflit direct avec l'Iran? Est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que la diplomatie et calmer le jeu sur cette partie du territoire ne serait pas une solution pour les Américains au vu de la situation globale?
Alors, je pense pour ma part que effectivement, je ne rejoins qu'en partie ce que dit mon interlocuteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, les budgets militaires font vivre l'économie américaine. Depuis les années 80, les années Reagan, on parle bien de militaro-keynésianisme pour caractériser la dynamique des investissements intérieurs américains. Le budget de la défense est le budget qui tient quelque part ce qui reste d'industrie aux États-Unis. Ça, c'est évident. D'un autre côté, d'un point de vue plus politique et plus diplomatique, est-ce qu'aujourd'hui, entrer en conflit avec l'Iran servirait les intérêts des États-Unis? Je pense qu'il faut vous rendre compte que, alors, s'il y avait un conflit, il y aurait une escalade, il y aurait à nouveau, si vous voulez, ils voient bien que quelque part, ils n'auront pas le soutien. Ça, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde ici chez les Occidentaux, c'est de voir à quel point les pays d'Afrique et d'Amérique latine rejetaient la politique des Occidentaux et des États-Unis concernant l'Ukraine et la politique de sanctions à l'égard de la Russie. Donc je pense nous devrions, comme Occidentaux, essuyer un nouvel échec diplomatique. Et ce serait difficile à vivre. On ne peut pas aller d'échec en échec. D'autre part, et ça je crois que il faut toujours comprendre la place, il faut toujours envisager la place de l'Europe occidentale dans les mécanismes d'accumulation d'économie capitaliste globalisée actuelle, néolibérale globalisée. Les États-Unis ne sont pas suffisamment puissants pour nous considérer, nous, complètement, l'Union européenne, comme quantité négligeable. Nous ne pouvons pas entrer en crise. Or, s'il y avait un conflit avec l'Iran, nous entrerions, nous, en Europe occidentale, inévitablement en crise. Parce qu'un conflit contre l'Iran aurait des répercussions que je qualifierais de cataclysmique, voire d'apocalyptique, sur le marché du pétrole. Or, ce que je disais tout à l'heure, pour nous, en Europe occidentale, la question de la croissance pour nous passe par la gestion de notre dépendance aux hydrocarbures. Donc, fatalement, il ne peut pas y avoir pour les Européens de conflit avec l'Iran. Pour l'instant, le conflit avec l'Iran doit être exclu parce que cela mettrait l'Europe occidentale, qui est déjà aujourd'hui en situation de tension sur ses fournitures de gaz, en plus avec une tension sur le marché du pétrole. Ce serait économiquement tout à fait intenable.
Merci, monsieur Dupré. Et c'est sur ces mots de conclusion que nous finissons donc notre débat. Je remercie nos experts, monsieur Amroni et monsieur Dupré, pour leur participation à cette émission. Je vous dis donc à une prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici à partir des studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Très chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le leader de la révolution islamique a appelé les autorités du pays à poursuivre sérieusement l'affaire des empoisonnements dans les écoles et à en punir les auteurs. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a qualifié les récents empoisonnements dans les écoles iraniennes de crimes impardonnables et importants, appelant les autorités à poursuivre sérieusement l'enquête sur cette affaire. C'est un crime contre les éléments les plus innocents de la société, c'est-à-dire les enfants, d'autant plus qu'elle a suscité une insécurité psychologique dans la société et l'inquiétude des familles, a-t-il estimé lundi 6 mars alors qu'il plantait des arbustes à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Si les auteurs de ce crime sont identifiés et condamnés, il n'y aura pas d'amnistie. Ils seront sévèrement punis afin que cela devienne un exemple pour les autres, a ponctué le leader de la révolution islamique. Le président iranien Ebrahim Raisi a décrit les derniers incidents d'empoisonnement dans un certain nombre d'écoles à travers le pays comme partie intégrante d'une guerre hybride contre la République islamique, appelant les agences de renseignement du pays à faire face à toute menace pour la santé des établissements d'enseignement. M. Raisi a fait ces remarques lors d'une réunion avec le personnel du ministère iranien des renseignements à Téhéran mardi 7 mars à la suite d'informations faisant état d'une série d'empoisonnements mystérieux d'écolières dans plusieurs provinces qui ont suivi les récentes émeutes soutenues par l'étranger à travers le pays. Il est nécessaire de se tenir au courant des développements et des informations à jour et d'avoir une compréhension précise de la nature des menaces actuelles pour pouvoir affronter l'ennemi dans la récente guerre hybride, a déclaré M. Raisi. Dans son droit fil, le vice-ministre de l'Intérieur a déclaré mardi que plusieurs personnes avaient été arrêtées en lien avec les récents empoisonnements d'écolières. Dans le cadre des investigations menées par nos services, plusieurs individus ont été arrêtés dans 5 provinces et les organes concernés mènent une enquête approfondie, a déclaré mardi Majid Mirahmadi, sans fournir plus de détails sur l'identité des interpellés. Dès que nos investigations aboutiront, nous informerons le public de ces résultats, a-t-il précisé. M. Amir Ahmadi a en outre réitéré que les personnes impliquées dans la guerre hybride contre l'Iran sont à l'origine des empoisonnements dans les écoles. La République islamique d'Iran a atteint la capacité de production de missiles balistiques assez puissants pour détruire des cibles marines en mouvement, a déclaré lundi 6 mars le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareri. Le général Bareri a déclaré que le missile avait été testé avec succès et que sa production de masse avait été lancée. Après la production de ce missile, l'Iran fera partie des 3 pays possédant le savoir-faire technique pour fabriquer de tels missiles, a-t-il indiqué. Il a ajouté que le nouveau missile balistique d'une portée de 1500 km pouvait atteindre sa cible avec une vitesse de Mach 8, précisant qu'il est capable d'opérer des frappes de précision. Déjà en novembre 2022, le commandant de la division aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, avait déclaré que l'Iran possédait une puissance de drone de niveau mondial, était désormais un pionnier de la technologie des missiles balistiques, affirmant que l'Iran est à égalité avec les puissances mondiales en termes de technologie de drone et que ses réalisations dans ce domaine ont défié les puissantes armées du monde. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la République islamique ne reculerait jamais d'un iota sur sa position de soutien à la cause palestinienne et à la résistance. S'adressant à une conférence sur la diplomatie de la résistance à Téhéran, mardi 7 mars, M. Amir Abdollahian a déclaré que tous les Iraniens resteront attachés à la question palestinienne jusqu'à la mise en place d'un gouvernement uni avec Rots comme capitale. Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie fasse partie d'un futur État indépendant avec Rotsest comme capitale. Ailleurs, dans ses remarques, M. Amir Abdullahian a souligné la fermeté de l'Iran dans la voie de la diplomatie et des négociations pour relancer l'accord nucléaire de 2015 et a exprimé la détermination de Téhéran à poursuivre ses efforts pour parvenir à un accord fondé sur ses intérêts nationaux. Nous avons explicitement dit aux États-Unis et aux parties occidentales que le respect des lignes rouges de l'Iran et ses intérêts nationaux, ainsi que la conclusion d'un accord auquel toutes les parties montreraient leur adhésion, sont à notre ordre du jour, a déclaré le haut diplomate iranien. Il a ajouté que l'Iran ne quitte jamais la table des négociations et qu'il a prouvé qu'il n'a jamais reculé de ses lignes rouges, même lors des récentes émeutes soutenues par l'étranger dans le pays. Les médias palestiniens et israéliens ont rapporté mercredi matin 8 mars que des sirènes avaient retenti dans les colonies israéliennes voisines de Gaza. L'agence palestinienne Sama a annoncé que des sirènes ont résonné dans la colonie de Sderot, située dans le sud d'Israël. La presse israélienne a affirmé que des sirènes avaient retenti avant l'aube de mercredi matin à Niram, un kibboutz situé au nord de Gaza, près de la ville de Sderot. Les forces de défense israéliennes ont prétendu qu'une roquette qui avait été tirée depuis Gaza avait atterri dans les limites de la bande. En réaction au crime du régime sioniste à Jenin, qui a laissé des morts et des blessés côté palestinien, le groupe Fosse Lion, affilié à la résistance, a annoncé dans un communiqué qu'il était bien résolu à se venger du régime sioniste. Ce groupe palestinien a également appelé le peuple palestinien à descendre dans la rue à minuit pour soutenir la résistance et condamner les crimes des sionistes et exprimer sa solidarité avec les combattants palestiniens. Divers groupes palestiniens ont prévenu le régime sioniste que Tel Aviv paierait un lourd tribut. La brigade de Jenin, branche militaire du mouvement du djihad islamique de la Palestine, s'est adressée au régime mardi soir. « Nous ne nous retirons jamais d'Ayota de notre chemin et nous serons une épine dans les yeux de l'ennemi sioniste », a-t-elle averti. Mardi, les affrontements ont opposé les combattants de la résistance palestinienne aux militaires israéliens ayant attaqué Jenin. Au moins 6 Palestiniens ont été tués et 26 autres blessés par les militaires israéliens. Les exactions du régime sioniste contre le peuple palestinien, en particulier les combattants de la résistance, se sont intensifiées après la prise de fonction du cabinet d'extrême droite d'Israël, dirigé par Benjamin Netanyahou. Netanyahou fait des concessions aux ministres extrémistes tels que Ben Gvir et Bezalel Smotrich pour attirer leur soutien en sa faveur dans le but de faire avancer ses projets ambitieux. L'alliance Fatah au Parlement irakien affirme que la résistance et les groupes politiques du pays s'accordent sur la nécessité de l'expulsion des troupes américaines, notant qu'il s'agit d'une décision définitive et nationale plutôt que d'une faction. Les efforts se poursuivent au niveau public et politique pour clore le dossier de la présence des forces américaines sur le sol irakien et il n'y aura ni négligence ni hésitation dans cette décision, a déclaré mardi 7 mars Karim Alioui, membre de l'Alliance Fatah à l'agence de presse irakienne Al-Malouma. Ces remarques sont intervenues après que le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a effectué une visite inopinée dans la capitale irakienne Bagdad. La visite intervient quelques jours avant le 20e anniversaire de l'invasion américaine du pays sous le prétexte que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Les États-Unis ont retiré leurs soldats d'Irak entre 2007 et 2011, mais ils les ont redéployés en 2014 sous prétexte de vouloir contrer la menace de Daesh. L'Irak a réussi à mettre fin à la présence des groupes terroristes Takfiri grâce au sacrifice de l'armée nationale et des unités de mobilisation populaire. La résistance irakienne, la mobilisation populaire et les groupes politiques s'accordent sur la nécessité de l'expulsion de toutes les forces américaines du sol irakien. Et si cela n'est pas fait, de nouveaux moyens d'expulser les Américains seront à l'ordre du jour, a déclaré Alioui. Il a également exhorté le Parlement irakien à mettre en œuvre la résolution de 2020 sur l'expulsion du personnel militaire américain. un raid aérien mené par Israël contre l'aéroport international d'Alep a provoqué la mise hors service de celui-ci, a rapporté mardi matin 7 mars l'agence de presse officielle syrienne Sana. Selon une source militaire citée par Sana, la frappe aérienne israélienne a été menée tôt mardi depuis la direction de la mer Méditerranée à l'ouest de la ville côtière de Latakia. La source militaire a ajouté que l'attaque n'a causé que des dégâts matériels à l'aérodrome de l'aéroport international d'Alep, mettant l'aéroport hors service. Les médias syriens avaient précédemment déclaré que les défenses aériennes du pays avaient intercepté des missiles israéliens venant de la direction de la Méditerranée, abattant un certain nombre d'entre eux. La nouvelle frappe israélienne intervient alors que l'aéroport international d'Alep est l'une des principales portes d'entrée pour les livraisons étrangères transportant de l'aide humanitaire aux victimes du récent tremblement de terre dévastateur dans le pays. L'acte d'agression israélien a suivi une autre frappe, plus tôt en février, lorsque l'avion du régime a frappé la capitale syrienne et ses environs, en particulier un certain nombre de bâtiments résidentiels dans le quartier de Karsousa, au centre de Damas. Tal al-Masi, près de la ville de Jahpa, au nord de Souida, dans le sud-ouest de la Syrie, était une autre cible de cette attaque. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.